Voilà, bonsoir à chacun. Merci d'être avec nous ce soir à l'Assemblée chrétienne à Balègue où Rachel, mon épouse et moi-même nous réunissons d'habitude. Nous avons commencé il y a quelque temps donc une série sur le livre de 1 Samuel. Vous en avez déjà probablement suivi une ou deux rencontres récemment sur Zoom. Ce soir, nous allons voir ensemble le chapitre 15. En tout cas, quelques éléments parce qu'on ne va pas prétendre à l'exhaustivité. Comme ça a déjà été présenté, comme le contexte du livre a déjà pu être présenté récemment par Jean-Jacques Bourgeois et Claude-Henri André, je ne vais pas revenir sur le contexte du livre ni de la royauté. Mais je vous propose que nous commencions directement à lire ensemble le texte biblique. Je ne vais pas l'afficher à l'écran, donc je propose à chacun de prendre sa Bible et de suivre avec moi. Nous lisons donc l'entier du chapitre 15 du premier livre de Samuel. 1 Samuel 15 et au premier verset. Et Samuel dit à Saül, l'Éternel m'a envoyé pour t'oindre comme roi sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute la voix des paroles de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées, j'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek et vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui. Et tu ne l'épargneras pas, mais tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants et ceux qui tètent, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Et Saül convoqua le peuple et le dénombra à Telaïm, 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et Saül vint jusqu'à la ville d'Amalek et il plaça une embuscade dans la vallée. Et Saül dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, descendez du milieu des Amalekites, de peur que je ne te détruise avec eux. Car toi, tu as usé de bonté envers tous les fils d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et le Kénien se retira du milieu d'Amalek. Et Saül frappa Amalek, depuis Havila en allant vers Shur, qui est en face de l'Égypte. Et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et détruisit entièrement tout le peuple par le tranchant de l'épée. Et Saül et le peuple épargnèrent Agag, et le meilleur du menu et du gros bétail, et les bêtes de la seconde portée, et les agneaux, et tout ce qui était bon, et ils ne voulurent pas les détruire entièrement. Mais tout ce qui était misérable et chétif, cela, ils le détruisirent entièrement. Et la parole de l'Éternel vint à Samuel, disant, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. Et Samuel fut fort attristé, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et Samuel se leva de bonne heure pour aller le matin à la rencontre de Saül. Et on rapporta à Samuel disant, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un trophée. Il s'est tourné ailleurs et a passé plus loin et descendu à Gilgal. Et Samuel vint vers Saül, et Saül lui dit, béni sois-tu de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. Et Samuel dit, quel est donc ce bêlement de brebis à mes oreilles et ce beuglement de bœufs que j'entends? Et Saül dit, ils les ont amenés des Amalékites, car le peuple a épargné le meilleur du menu et du gros bétail pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons détruit entièrement. Et Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et il lui dit, parle. Et Samuel dit, n'est-ce pas? Quand tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu chef des tribus d'Israël, et l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. Et l'Éternel t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va et détruis entièrement ces pécheurs, les Amalékites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient consumés. Et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Étais-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel? Et Saül dit à Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel, et je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé, et j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai entièrement détruit Amalek. Et le peuple a pris, dans le butin, du menu et du gros bétail, comme prémisse de ce qui était voué à l'exécration pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écouter est meilleur que sacrifice, prêter l'oreille meilleur que la graisse des béliers, car la rébellion est comme le péché de divination, et l'obstination comme une idolâtrie et des téraphims. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Et Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles, car j'ai craint le peuple et j'ai écouté leur voix. Et maintenant, pardonne, je te prie, mon péché, retourne-t'en avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Et Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi sur Israël. Et Samuel se tourna, pour s'en aller. Et Saül saisit le pan de sa robe qui se déchira. Et Samuel lui dit, l'Éternel a déchiré aujourd'hui la royauté d'Israël de dessus toi et l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. Et aussi, la surconfiance d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et Saül dit, j'ai péché. Honore-moi maintenant, je te prie, en la présence des anciens de mon peuple et en la présence d'Israël, et retourne-t'en avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Et Samuel retourna après Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Et Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag vint à lui gaiement, et Agag disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Et Samuel dit, comme ton épée a privé d'enfants les femmes, de même, entre les femmes, ta mère sera privée d'enfants. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Et Samuel s'en alla à Rama. Et Saül monta à sa maison à Guiba de Saül. Et Samuel ne vit plus Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel menait deuil sur Saül, parce que l'Éternel s'était repenti d'avoir établi Saül roi sur Israël. Même si on ne met pas le contexte du livre, on est un peu obligé de commencer en voyant le contexte des rapports entre Israël et les Amalékites. Mis à part une mention très rapide à la fin du chapitre 14, ce livre de 1 Samuel n'a pas encore mentionné du tout le peuple d'Amalek. Quand la Bible parle d'Amalek, il s'agit soit de l'ancêtre du peuple des Amalékites, qui justement s'appelait Amalek, donc le petit-fils d'Ésaü dont nous parle Genèse 36 au verset 12. Il peut aussi s'agir, quand on parle d'Amalek, du peuple qui est issu de cet ancêtre, qui a bien des interactions avec le peuple d'Israël. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces interactions n'ont pas été paisibles. La première fois qu'on retrouve le peuple d'Amalek dans la Bible, c'est en Exode 17, au verset 8. Il nous est dit, et Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de cette bataille, comment Josué, à la tête des troupes d'Israël, combattait Amalek, pendant que Moïse tenait les mains levées depuis la colline, avec l'aide de Aaron et de Hur. Vous vous souvenez sans doute que dans cette bataille, l'Éternel a donné à Israël une victoire totale. Tout ça a eu lieu à Réphidim, qui est assez au sud de la péninsule du Sinaï, environ là où vous voyez le point rouge sur la carte. À cette époque, il semblerait que Amalek séjournait dans le désert du Negev, donc environ 200 à 250 kilomètres au nord de Réphidim. À nouveau, c'est un peu approximatif où j'ai mis cette zone orange qui serait là où habitait le peuple d'Amalek. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on s'arrête un peu à cette première rencontre entre les Amalékites et les Israélites? C'est justement parce que notre passage de 1 Samuel en parle. Ce qui s'était passé à Réphidim est la raison de la condamnation par Dieu de ce peuple et de l'ordre donné à Saül de l'exterminer. Ainsi dit l'Éternel des armées. J'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Voilà le motif. Et donc, le récit d'Exode 17, 8 est très sobre. On n'a vraiment pas beaucoup de détails et encore moins les intentions d'Amalek. Par contre, si je me risque à interpréter, il me semble que l'action de ce peuple était clairement une guerre offensive, avec pour but de purement et simplement détruire Israël, ou du moins lui faire changer ses plans du tout au tout. Il faut se rappeler que le peuple d'Israël n'était pas sorti depuis longtemps du pays d'Égypte et n'avait pas encore eu le temps de bien s'organiser, notamment au niveau militaire. Et voilà un peuple qui lui tombe dessus sans crier gare. Un peuple qui est prêt à faire une longue expédition de 200 ou 250 kilomètres pour venir attaquer Israël et si possible le détruire. Un peuple pas encore organisé. Quelle cruauté! C'est d'ailleurs le premier peuple contre lequel Israël a à se battre depuis sa sortie d'Égypte. Il est évident que si la logique militaire avait été respectée, Israël aurait dû être défait, voire éliminé. Mais c'était sans compter avec Dieu qui avait déjà montré à son peuple qu'il pouvait le nourrir de façon miraculeuse. Et dans ce passage d'Exode 17, on le voit pour la première fois qu'il montre aussi que Dans une guerre qui paraît être perdue d'avance, Dieu peut donner la victoire, une victoire miraculeuse. Alors voilà, ça c'était la première rencontre. Dans ses rapports avec Israël, cette cruauté que les Amalékites ont manifestée a été telle que c'est le seul peuple dont Dieu ordonne à Israël de carrément effacer leur souvenir de dessous le ciel. On trouve ça dans le verset qui s'affiche de Deutéronome 25. Et quand l'Éternel ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis alentour, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, il arrivera que tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Tu ne l'oublieras pas. Donc, avant notre passage qui nous occupe ce soir dans 1 Samuel 15, on retrouve les Amalékites mentionnés dans le livre des Juges. Ils sont mentionnés à l'époque où Gédéon est juge. À cette époque, Amalek se joint à Madian et vient attaquer Israël et détruire ses récoltes. Ça, c'était avant le passage qui nous occupe. Après ce passage, donc après 1 Samuel 15, on retrouve à nouveau les Amalékites. On lit que David fait des incursions dans leur pays. Ça, c'est au chapitre 27. Plus tard, on voit les Amalékites s'attaquer à la ville de Tsiklag, en l'absence de David, la brûler après en avoir emmené des captifs, surtout les femmes et les enfants. Tsiklag était temporairement la ville de David. Elle lui avait été donnée par Achish, donc le roi des Philistins. Comme ça s'est passé en l'absence de David, une fois que celui-ci a été informé de la situation, il poursuit les Amalékites, libère les prisonniers, femmes et enfants, et récupère le butin. On voit ce verset en 1 Samuel 30. Et David les frappa jusqu'au crépuscule, jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, sauf 400 jeunes hommes qui s'enfuirent montés sur des chameaux. On n'entend plus parler ensuite des Amalékites dans la Bible. Quoique, en effet, certains commentateurs pensent que Haman, le Agagite dont il est question dans le livre d'Esther, est un descendant de Agag, le roi que Samuel met en pièces. C'est en tout cas ce qu'écrit Flavius Josèphe dans les Antiquités juives et qui est repris par beaucoup de commentateurs. Agag, c'était aussi, semblerait-il, une province perse à l'époque de Haman, donc Haman aurait pu en être issu. Mais si on pense que Haman était Amalékite, cela ferait tout à fait sens avec cette haine destructrice qu'il a étendue de Mardochée à tous les Juifs. Et pourtant, ces faits ont eu lieu environ 1000 ans après l'attaque d'Israël par Amalek et 600 ans après ce passage de 1 Samuel 15. Alors voilà donc un survol de ces rapports entre les Israélites et les Amalékites. En résumé, on pourrait dire que c'est une lutte à la mort entre ces deux peuples. Ça peut peut-être nous aider à comprendre l'ordre de l'Éternel donné à Saül. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours beaucoup de peine quand je lis dans l'Ancien Testament l'ordre donné par Dieu d'exterminer un peuple. J'ai de la peine à concilier cela avec l'idée d'un Dieu de grâce, d'un Dieu qui pardonne. On peut toutefois se rappeler des parallèles, en particulier avec Ninive, qui a été épargnée parce qu'elle a accepté la grâce et s'est repentie. Le plan de destruction de Dieu n'était pas la fin, mais c'était sérieux. Et la destruction se serait passée sans aucun doute s'il n'y avait pas eu de changement. Mais dans le cas de Ninive, il y a eu changement. Il y a eu repentance. Et Dieu, bien au regret de Jonas en l'occurrence, a fait grâce. En même temps, le refus de grâce et l'absence de repentance d'autres peuples a porté à conséquence. Dieu ne serait pas Dieu s'il faisait grâce à ceux qui ne le demandent pas. Amalek ne s'est jamais repenti. Même si Dieu a patienté plusieurs siècles depuis les faits reprochés. Revenons à l'ordre donné à Saül de dévouer par interdit tout ce qui respirait de ce peuple d'Amalek. Comme synonyme de dévouer par interdit, on peut utiliser le verbe exterminer. Franchement, on ne peut pas dire que Saül n'a rien fait du tout pour obéir. Il s'est tout de même donné du mal et l'expédition qu'il a menée, ce n'était pas une mince affaire, hein. Rien que pour atteindre Havila, dont il est parlé dans notre passage, il faut compter plus de 150 km depuis le territoire de Benjamin. Donc Benjamin, ce serait grosso modo le point vert. Et Havila, le point rouge. Et depuis là, il faut encore compter 200 km de traversée de désert pour atteindre Shur, dans la région que j'ai mentionnée en orange sur la carte, qui est de l'autre côté de la péninsule du Sinaï, pas très loin de l'Égypte. Aller-retour, environ 700 km avec 210 000 hommes, c'est pas une mince affaire. Je vais pas m'arrêter plus en détail sur cet ordre donné par Dieu. Par contre, c'est clair que Saül a désobéi. Si vous avez suivi le message de Kimmo Risberger il y a 2 semaines, vous l'aurez entendu évoquer les presque de Saül. Là, on est exactement dans une de ces situations de presque. Saül a presque obéi. Du moins, au quantitatif, il a passablement obéi, mais il n'a pas entièrement obéi. Même si on a pris du temps pour rappeler les rapports entre Israël et Amalek, la suite du passage montre que l'enjeu était de loin pas uniquement ce rapport aux Amalékites. L'enjeu était le rapport de Saül à Dieu et en particulier à l'obéissance. Et c'est ce thème de l'obéissance qui prend tout de suite du relief quand Samuel rencontre Saül. Comment Saül va-t-il répondre de sa désobéissance? Par la repentance? Non, on le verra. Il ne se repentira pas. On va essayer d'identifier dans ce passage comment Saül essaye de s'en sortir sans reconnaître la vérité de son péché face à Samuel. Il a utilisé différentes méthodes bien humaines que malheureusement, je pourrais moi-même être franchement tenté d'essayer. Ça m'est arrivé, peut-être vous êtes comme moi. Alors reprenons une après l'autre ce qu'on peut peut-être identifier comme tort ou méthode de Saül pour désobéir, ou en tout cas ne pas obéir pleinement. Ça commence par le mépris de la patience de Dieu. C'est déjà le cas avant ce chapitre. Saül désobéit, et pourtant il avait été averti en amont qu'en raison de sa désobéissance, son règne ne durerait pas. On trouve cela dans 1 Samuel 13, par exemple, après qu'il ait offert le sacrifice lui-même au lieu d'attendre Samuel. Vous vous souvenez de ce passage? Et Samuel dit à Saül, tu as agi follement. Tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'avait ordonné. Car maintenant, l'Éternel aurait établi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne subsistera pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple, car tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saül aurait été bien inspiré de se rappeler que l'obéissance était avant tout ce que Dieu demandait de sa part. Mais non. Il fait abstraction de ce que Samuel lui a dit dans le passé et désobéit à nouveau. Au lieu de se repentir, il méprise la patience de Dieu et pense qu'il va s'en sortir à sa façon. L'orgueil, voilà un autre péché de Saül. Ça a été mentionné dans la prière en introduction. À peine revenu de son expédition, il s'érige un monument. Franchement, selon toute vraisemblance, c'était simplement pour s'arroger le mérite entier de la victoire des Amalékites. Avec le rappel qu'il avait de la victoire miraculeuse obtenue à Réphidim, il a juste oublié que toute victoire dépendait de Dieu. Comment? Ben, l'orgueil, ça nous fait voir la réalité avec une grosse distorsion. Et c'est manifestement encore vrai pour nous aujourd'hui. Voilà, Saül accueille Samuel avec un message on peut plus engager spirituellement. Il joue sur les apparences. Béni sois-tu de l'Éternel. Ouh, ça sonne bien, ça. Mais juste là, qui est l'Éternel pour Saül, sinon celui à qui il a désobéi? Une des choses qui m'impressionne particulièrement dans ce chapitre, c'est à quel point il est probable que tous ceux qui ont vu la situation de l'extérieur n'ont pas connu la réalité de ce qui se passait. Du moins pas entièrement. Saül a trompé son monde du début jusqu'à la fin. Mis à part Samuel, qui savait très bien quel ordre a été donné, est-ce que les autres se sont rendus compte à quel point Saül avait désobéi? Même à la fin du chapitre, les anciens du peuple se sont probablement pas rendus compte de l'ampleur du problème. Parce que visiblement, Samuel a honoré Saül en leur présence. Si je suis honnête avec moi-même, je dois admettre que c'est assez facile de se revêtir d'une image juste religieuse à l'extérieur en étant désobéissant au Seigneur sur un point ou un autre à l'intérieur. On garde les apparences, elles sont sauves, mais la vérité n'est pas présente. Et c'est bien là qu'est l'enjeu, la vérité. Ce qu'on reproche d'ailleurs le plus souvent aux chrétiens, il me semble, c'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie relève du mensonge. Le contraire de l'hypocrisie, c'est la véracité, l'authenticité. Quelqu'un de vrai fera pas semblant que tout va bien quand les choses ne sont pas réglées. Revenons à Saül. Une de ses autres méthodes, ça a été la dissimulation. On voit ça au verset 14. Saül ne s'arrête pas à juste être un exemple d'hypocrisie. Il continue avec une certaine gradation dans ses torts. Après avoir salué Samuel, comme on l'a dit, avec son « Béni sois-tu de l'Éternel », Saül ajoute tout de suite « J'ai exécuté la parole de l'Éternel ». Alors franchement, si c'était pas aussi dramatique, la situation pourrait presque être amusante. Mais comment au monde Saül peut-il imaginer que l'entier de la vérité ne va pas éclater? Ça n'a d'ailleurs pas tardé. Et Samuel dit « Quel est donc ce bêlement de brebis à mes oreilles et ce beuglement de bœufs que j'entends ?» Saül comprend là, à la seconde, que la dissimulation ne va pas fonctionner. Il s'engage encore plus, en quelque sorte, dans ce cercle vicieux d'absence de vérité. Pour nous aussi, ce risque de glissement existe. On peut parfois faire des concessions avec la vérité et croire qu'on peut s'en sortir avec une vérité partielle ou à la limite avec un vernis de spiritualité. Mais ça, ce n'est pas marché dans la vérité. À force de se construire notre propre vérité au lieu d'accepter la réalité de selon Dieu, on ne trompe pas que les autres, mais on peut finir par nous mentir à nous-mêmes. On est parfois très doué pour se convaincre, du style « mais non ». Remettre volontairement un petit revenu sur ma déclaration, c'est pas ma déclaration d'impôt, c'est pas du vol. Mais non, il est possible que Saül ait fini par être convaincu lui-même qu'il avait obéi. Et si notre conscience n'est pas exercée, elle finit par ne plus nous reprendre. Il nous faut donc une référence externe. C'est beau de voir ce que David, si on le met en contraste, a réalisé dans le psaume 139 en demandant à Dieu justement d'être cette référence externe. Il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi, et connais mes pensées, et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Voilà une référence externe. Suite du cercle vicieux, transfert du blâme sur les autres. Samuel vient de poser la question sur la raison du bêlement des brebis et du beuglement des bœufs, et la réponse de Saül commence par « il ». Il au pluriel. Et Saül dit, ils les ont amenés des Amalékites, car le peuple a épargné le meilleur du menu et du gros bétail. Cette façon d'essayer de dégager en touche, en incriminant les autres, serait à nouveau presque drôle, franchement, s'il n'y avait pas ce refus de vérité, ce refus d'honorer Dieu de la part de Saül. Je me pose la question d'ailleurs, comme rien n'indique que qui que ce soit ait eu l'intention de sacrifier ces animaux, comment Saül aurait été expliqué au peuple que maintenant il s'était engagé face à Samuel de sacrifier ça. Mais ça me donne de nouveau l'impression que c'était une façon de Saül de s'en sortir. Pour nous autres chrétiens du 21e siècle, on peut penser qu'on ferait jamais un truc pareil. Bah, peut-être pas. Mais chaque chose qui nous permet de nous mettre ou de nous placer à l'intérieur d'un groupe, en quelque sorte, de diluer notre responsabilité personnelle, un peu le même effet. Nous ne sommes plus devant Dieu seuls pour assumer notre péché. Et ça peut revêtir bien des formes différentes pour nous. On pourrait dire que nous sommes tous pécheurs. Alors, à la base, c'est tout à fait vrai, absolument. Mais ça pourrait peut-être parfois être une façon de minimiser notre responsabilité personnel face à Dieu. Une autre façon serait de dire que nous étions pécheurs au passé. C'est peut-être une autre façon de ne pas affronter notre désobéissance actuelle. Un verset qui me marque à ce titre, c'est ce qu'écrit Paul à Timothée, dans la première épître à Timothée. On va juste en lire un extrait. « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont moi je suis le premier. » Vous avez remarqué le ton du verbe « être » C'est au présent. Paul a cette reconnaissance qu'il est pécheur, pécheur pardonné, mais pécheur encore maintenant, actuellement. Il ne le cache pas et il le confirme dans d'autres passages. Une autre façon qu'on aurait encore de ne pas prendre notre responsabilité personnelle, c'est éviter de dire qu'on pêche et préférer dire qu'on est pécheur. Alors si vous êtes comme moi, vous admettrez que c'est plus facile de dire je suis pécheur que de dire j'ai péché. Pourquoi? Parce que quand je dis j'ai péché, ça a des impacts très concrets. Tout d'abord, c'est lié à un péché concret, un tort qu'on a commis, quelque chose qu'on a dit, voire même du bien qu'on n'a pas fait. On peut pas dire j'ai péché sans penser à un péché précis. Sinon, ça reviendrait à dire je n'ai pas péché. Et si c'est concret, notre réponse devra aussi être concrète si on tient à obéir. Ça va être demander pardon, réparer tout ce qui peut l'être, etc. On pourrait encore sans doute trouver d'autres façons, tout aussi subtiles, d'éviter de se trouver seul face à Dieu avec notre péché, notre responsabilité. Nous sommes peut-être malheureusement des fois des Saül assez créatifs. Si on revient au verset 15 à 21, on va pas les relire, mais là on trouve plusieurs tentatives de Saül de se justifier. On va juste lire le verset 15. Car le peuple a épargné le meilleur du menu et du gros bétail pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons détruit entièrement. Alors, on a parlé un peu de la responsabilité ou du blâme déplacé sur les autres. Mais là, tout ça ça ressemble franchement à un gros mensonge pour attraper le coup. J'appellerais ça un après-couisme, si vous me passez l'expression. Saül s'enfonce allègrement dans le mensonge, mais là, il y a un coup d'arrêt brutal dans la discussion. Arrête! Lui dit Samuel. Si vous avez sursauté, probablement Saül a aussi sursauté. C'est comme si le texte était très sobre là, mais que Saül aurait pu compléter en disant arrête de dire n'importe quoi, ou arrête tes bêtises, ou encore arrête de te moquer de Dieu. Au verset 17 et 18, on voit Samuel rappeler deux choses importante. Premièrement, c'est Dieu qui a établi Saül comme roi d'Israël quand Saül était humble. Et deuxièmement, l'ordre de Dieu en rapport avec les Amalékites était très clair. Ça le mène à la question de Samuel. Verset 19. Pourquoi as-tu désobéi? Et là, direct après, au verset 20 et 21, on voit Saül qui nie avoir désobéi. À nouveau, c'est presque drôle qu'il puisse penser s'en sortir. Il dit dans la même phrase qu'il a épargné Agag et qu'il a entièrement détruit Amalek. Mais ces deux choses ne pouvaient pas être vraies en même temps. Et d'ailleurs, c'est le principe même quand on cherche à se justifier. Une désobéissance qu'on essaye de faire passer pour de l'obéissance. Et 30 siècles plus tard, on a toujours les mêmes tendances. On n'aime pas dire qu'on a péché. J'aurais tendance à mettre, par exemple, ma colère sur le compte de mon caractère, mais pas du péché. Ou je mettrais nos paroles méchantes et blessantes sur le compte d'une nécessité d'être franc. On mettra l'amertume sur le compte de la difficulté de la vie, pas du péché. Tout ça, c'est de la justification de la désobéissance. Encore voici une méthode que Saül essaye d'employer, mais que Saül décode très vite, le remplacement de l'obéissance par des actes religieux. Saül pensait pouvoir s'en tirer très bien avec ça. Et Samuel le remet les points sur les i. Et l'obéissance est déjà dans l'Ancien Testament plus important que les sacrifices. Les sacrifices n'ont jamais été destinés à remplacer une vie d'obéissance. Ils devaient juste en être l'expression. Et Samuel dit au verset 22, L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écoutez, on note, c'est mentionné, obéir. Voici, obéir est meilleur que sacrifice. Prêter l'oreille est meilleur que la graisse des béliers. Le constat de Samuel est absolument cinglant. C'est la même chose pour nous, en quelque sorte. Le baptême, la scène, la participation aux différentes rencontres d'église, même la lecture quotidienne de la Bible, toutes ces choses très bonnes et importantes en soi, ne remplace pas l'obéissance complète dans tous les aspects de notre vie, de A à Z. Et pourtant, si vous êtes comme moi, combien souvent on tolère certaines choses dans nos vies de tous les jours? Nous ne sommes pas incompatibles, par exemple, avec prendre la scène, jalousie, égoïsme, amertume, cupidité, absence d'amour, absence de grâce, et j'en passe. Ouais, si je regarde au fond de moi, est-ce que j'ai pas une tendance dans ma vie de tous les jours, à être un petit Saül, plus que ce que j'aimerais l'admettre. Je ne sais pas si c'est votre façon de voir aussi ce passage. Mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé assez facile au début de pointer un doigt accusateur sur Saül, parce que franchement, c'est presque une caricature, hein. Mais au fur et à mesure qu'on relit, que je relisais, que je réfléchissais, il me semblait que j'étais aussi tenté de faire comme lui. Différemment, ouais. Mais avec la même tendance pécheresse que lui, avec l'envie de fixer mes propres règles. Ce texte, il est vraiment intransigeant avec la vérité. Il me pose la question, est-ce que je suis toujours dans la vérité? Entièrement dans la vérité? Repentance de Saül. Vous auriez vu que j'ai mis ça entre guillemets. Toutes les méthodes de Saül pour s'en sortir à sa façon ont jusque-là lamentablement échoué. Celui qui aime la vérité la poursuit. Il ne fait pas que la reconnaître quand il est au pied du mur et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est pourtant ce que Saül finit par faire. Et là, au verset 23, le couperet tombe. Samuel dit, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Cela me mène à ce que je perçois comme le thème central de notre passage, à savoir la repentance. Il y a plusieurs fois la mention de repentance, mais c'est en rapport avec l'Éternel. On va aller très rapidement là-dessus. Au verset 10, on voit que l'Éternel dit à Samuel, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. On voit ensuite au verset 29 que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Et à nouveau au verset 35 qui n'est pas à l'écran, on voit que l'Éternel s'était repenti d'avoir établi Saül sur Israël, comme roi sur Israël. D'ailleurs, ces deux versets qui s'affichent à l'écran peuvent paraître vraiment contradictoires. Je ne voulais pas du tout parler ce soir de la repentance de Dieu, mais comme on a ces deux choses un peu étonnantes à l'écran, on pourrait se dire que la Bible se contredit, mais ce n'est pas le cas. C'est juste que certains concepts divins dépassent tellement la nature humaine que notre vocabulaire est trop limité pour décrire tout ça. C'est un peu comme si vous ou moi, on tentait d'expliquer à quelqu'un du Moyen Âge ce qu'est le Wi-Fi ou Internet. Franchement, je me demande vraiment quel genre de vocabulaire j'utiliserais. Mais revenons au thème de la repentance. J'aimerais m'arrêter sur la repentance ou l'absence de repentance de Saül. On revoit ce verset. Saül a mis pied au mur. Et il faut ça pour qu'il reconnaisse son péché. Pourtant, il avait déjà été averti avant que son règne ne subsisterait pas, mais il semble ne pas l'avoir pris au sérieux. Et dans ce chapitre, enfin, Saül semble réaliser que la décision est arrêtée et irrévocable. Cela le met presque dans un état de panique. Il reconnaît qu'il a péché au verset 24. Il demande pardon pour son péché au verset 25. Il demande en même temps à Samuel de venir avec lui pour se prosterner. Mais Samuel refuse et tente de s'en aller au verset 27, après avoir redit à Saül que l'Éternel le rejetait. Saül attrape alors le manteau de Samuel qui se déchire. Samuel reste inflexible, ce qui semble augmenter la panique de Saül. Il implore encore Samuel dans ce verset 30, et Saül dit, j'ai péché. Honore-moi maintenant, je te prie, en la présence des anciens de mon peuple et en la présence d'Israël. Et retourne-t'en avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Là, il me semble qu'on voit vraiment le fond des pensées de Saül. Il veut pas perdre sa position ni sa réputation. Il se moque de Dieu, en fait, qui n'appelle pas son Dieu d'ailleurs, mais celui de Samuel. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et il est prêt à tout pour rester roi. On peut pas parler de repentance. À la limite, on peut parler de regret. Il y a d'ailleurs une énorme différence entre les deux. La repentance, c'est être profondément attristé d'avoir offensé Dieu. Alors que le regret, on peut l'avoir pour d'autres motifs qui peuvent être assez différents. Par exemple, un enfant qui regrette d'avoir volé des bonbons simplement parce qu'il s'est fait attraper. Il se promet qu'il ne se fera plus attraper la prochaine fois qu'il volera un bonbon. Là, il y a un certain regret. Peut-être un regret sur la façon n'avoir pas réussi à patienter les gouttes. Ça, c'est pas de la repentance, c'est du regret. Ça n'a rien à voir. L'attitude de cœur n'a pas changé. Pour nous autres adultes, on regrettera peut-être les choses simplement parce qu'elles nous mettent dans une lumière qui ne nous est pas avantageuse. Ça ne fait pas de nous des gens repentants. Mais de l'extérieur, ça peut y ressembler. Alors, la vraie repentance. La Bible est très claire que pour obtenir le salut, il faut la repentance. C'est ce qu'on appelle la repentance initiale. Sans vouloir revenir trop en détail sur ce qu'est le salut, on peut résumer ainsi les étapes du salut. D'abord, réaliser l'horreur de mon péché aux yeux de Dieu est appelé la conviction de péché. Il n'y a pas de salut sans conviction de péché. Seul le Saint-Esprit peut donner cette conviction. On peut cependant la lui demander si on l'a pas. La repentance est la réponse à cette conviction de péché. Le regret ne suffit pas pour le salut, hein. La repentance et la foi doivent aller de pair. Si vous reconnaissez votre péché mais n'acceptez pas que vous méritiez la mort et que Jésus est mort à votre place sur la croix, donc ça c'est les deux côtés, repentance et foi, alors vous êtes repentant, mais pas sauvé. Les conséquences, d'ailleurs c'est bien triste de rester avec sa culpabilité qu'on a réalisée sans avoir la solution que nous offre le Seigneur. Les conséquences de la repentance sont les suivantes. La libération. Et ça, c'est la conséquence la plus magnifique. On est libéré de notre péché. Évidemment, être repentant sans se détourner du péché, c'est pas de la repentance vraiment. Être repentant sans réparer les torts commis, c'est pas tellement de la repentance. Ça, ce sont des conséquences logiques. Alors ça, c'est pour le salut. Mais en fait, si on y réfléchit, c'est presque la même chose pour la vie chrétienne. Presque, pas complètement. Le Nouveau Testament est très clair que dans la vie chrétienne, on est appelé à se repentir devant Dieu de nos péchés. Paul l'écrit en particulier aux Corinthiens plusieurs fois. Et Jean a écrit à des chrétiens ce qui est affiché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est écrit à des chrétiens. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, 8 à 10. Vous connaissez sans doute ces versets par cœur. Donc les éléments que nous avons évoqués pour le salut sont les mêmes pour régler chacun de nos péchés dans notre vie chrétienne. Par contre, notre salut éternel n'en dépend pas. Ça a été réglé. Mais ce qui en dépend, c'est l'obéissance. On a lu que nous péchons tous, mais sommes-nous repentants? Est-ce qu'on se débrouille peut-être pas mal pour ne pas pécher en acte grossier, en acte grave? Mais qu'en est-il en parole? Est-ce qu'elles sont toujours accompagnées de grâce? Est-ce que je suis toujours rempli d'amour pour mes frères et sœurs? Est-ce que mes pensées sont toujours à la gloire de Dieu? Si j'ai répondu non, c'est qu'à chaque fois, j'ai besoin de me repentir. Et si je refuse de me repentir, je suis dans la même situation que Saül à qui Samuel rappelle au verset 23 qu'il s'agit de rébellion, ce qui est aussi grave que l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Regardons donc le péché comme Dieu le voit et non pas selon notre conception. Contrairement à notre côté légaliste humain, il n'y a pas de hiérarchie de péché pour Dieu. On a autant à se repentir pour un manque d'amour que pour un mensonge ou un vol. Un chrétien qui ne se repent pas n'est pas dans la vérité, dans l'obéissance. Dire que nous ne péchons pas est un mensonge et refuser de se repentir pour un péché, c'est de la désobéissance, même de la rébellion. Franchement, heureusement que je me rends pas compte de tous mes péchés. Ça pourrait m'écraser. Par contre, ceux dont je me rends compte, ceux que le Seigneur illumine dans ma vie, alors ceux-là, ils m'obligent vraiment à une repentance quotidienne, si je suis honnête. On est appelé d'aller de progrès en progrès. La foi, on parle de la foi au chiffre 3 dont il est question dans la marche chrétienne serait la confiance dans les promesses de Dieu. Ça, là, c'est pas pas forcément la foi dans l'œuvre de Christ. Oui, ça l'est dans la mesure de cette confiance qu'on a que Christ a réglé une fois pour toutes à la croix nos péchés, y compris ce que je pêche aujourd'hui. Mais cette foi serait la confiance, comme je l'ai dit, dans les promesses de Dieu, dans le fait qu'il nous pardonne de façon certaine si nous lui demandons pardon. C'était ce verset de 1 Jean 1, 9 qu'on a vu, qui est une tellement magnifique promesse, pleine de grâce. La vérité est ce qui doit nous diriger dans tout ce chemin de repentance. Cette vérité que Saül a voulu cacher ou qu'il a minimisée. J'aimerais juste terminer en mettant le comportement de David en contraste avec celui que nous avons vu de Saül. Ce contraste, on le voit notamment très très clairement quand le prophète Nathan vient et confronte David quant à son péché de meurtre d'Uri et d'adultère avec Bathsheba. On va pas lire le passage, mais la première chose que David dit, c'est j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas commencé à se trouver des excuses du style que Uri avait été tué par les ennemis, que c'est la guerre et que ma foi dans la guerre il se passe des choses difficiles. Non, il a accepté, il a admis qu'il avait péché et il a accepté les conséquences de son péché. Et là, on voit l'importance de la vérité et de la relation que David avait avec Dieu. En contraste, Saül ne regrettait pas son péché, il en regrettait juste les conséquences néfastes pour lui. C'était une attitude de mépris pour Dieu quand même, saupoudrée de religion un petit peu pour faire joli. David a reconnu son péché immédiatement et il s'en est repenti. Il n'a rien caché. Et des millénaires plus tard, on voit encore et on peut lire sa repentance dans ce magnifique psaume 51. Si on regarde pourtant le casier judiciaire, si vous me passez l'expression de ces deux rois, ce casier judiciaire, il n'est pas toujours en faveur de David. Pensons à Bathsheba. Et pourtant, c'est David qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a donc pas une question d'absence de péché pour être appelé un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est l'attitude avec laquelle il marche avec Dieu. David avait décidé d'aimer la vérité et avait une relation authentique. Est-ce que pour autant il a évité le péché? Non. De loin, pas toujours. Mais il a, en se repentant, accepté la grâce. Il en a reconnu la nécessité. Et Dieu a fait grâce. Dieu ne demande pas la repentance pour nous écraser. Non, il demande la repentance pour que nous admettions la vérité. Et Dieu veut faire grâce. C'est dans son identité. La grâce, elle est un sous-produit de l'amour. Mais il ne fait pas grâce à quelqu'un qui ne demande pas grâce. Par contre, quand il fait grâce, c'est réglé et réglé pour de bon. À nouveau, on a ce magnifique verset du psaume 103. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. On pourrait dire que Dieu a une quantité infinie de grâce en stock. Le Seigneur Jésus a pris la condamnation de tous nos péchés, passés, présents, futur. Au final, chaque fois que nous refusons de nous repentir, aussi comme chrétiens, nous minimisons l'œuvre de la croix. Comme David, vous et moi pouvons être des femmes, des hommes selon le cœur de Dieu, non par nos mérites, non par notre absence de péché, mais par grâce. Cette grâce qu'on obtient par la repentance en étant vrai devant Dieu. Et ça, c'est au centre de la foi chrétienne. L'évangile, synonyme de bonne nouvelle, c'est avant tout que la question du péché est réglée une fois pour toutes par grâce. On minimise la repentance, ça minimise la grâce. Enlever la question du péché et de la repentance, et la grâce ne voudra plus rien dire. Ce ne sera plus l'évangile. Ça, c'est si on enlève la question complètement du péché et de la repentance. On peut aussi faire, comme on l'a dit, de la minimiser. Si on minimise, eh ben, on va avoir une grâce insipide, un évangile qui est totalement rabais. Notre connaissance et également notre adoration dépendront de l'ampleur de la reconnaissance de la grâce qui nous a été faite et qui continue à nous être faite. Et ça a aussi des effets autour de nous. Vous rappelez cette parabole des deux serviteurs, l'un qui devait une fortune à son maître et l'autre qui devait à son collègue un petit montant, alors qu'on venait de lui effacer sa dette. Celui qui avait une dette qu'il n'aurait jamais pu rembourser va presque jusqu'à étrangler son collègue pour exiger ce qui est dû. Si vraiment on se rend compte aussi de la grâce qui nous a été faite, la logique voudrait aussi qu'on l'ait pour ceux qui nous entourent et qu'on leur fasse grâce. La grâce, par nature, elle est injuste. Quand Dieu me fait grâce, ça veut dire qu'il ne me fait pas payer pour mes péchés. Et c'est en ça qu'elle est magnifique. Mais c'est aussi là que se pose la question, comment est-ce que je perçois cette grâce? Et comment est-ce que je perçois mon péché? Et ça me mène à la dernière slide. Pour chacun de mes péchés, serais-je un Saül ou serais-je un David? Les deux ont péché. Mais dans le contraste qu'on a vu tout à l'heure, les deux n'ont pas réagi de la même façon à leur péché. Alors voilà, serais-je un Saül ou serais-je un David? Je pourrais réfléchir demain, après-demain, mercredi, jeudi, vendredi. Je crains que je vais avoir chaque jour des occasions pour me poser cette question. Mais il ne faut pas finir sans cette exclamation que fait Paul. Grâce à Dieu pour son don inexprimable. Et j'espère vraiment que le message qui reste beaucoup, c'est pas seulement celui de la repentance et du péché, mais c'est bien l'ampleur de la grâce. Je vous remercie d'avoir été là ce soir.